Bienvenue à tous sur France Culture. Si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Face à une flambée du nouveau variant du coronavirus, les Britanniques et notamment leurs enfants se préparent à un long et dur confinement de 6 semaines avec l'espoir ambitieux de pouvoir vacciner près de 14 millions de personnes d'ici à la mi-février comme seule porte de sortie.
Les salariés à 100% en télétravail pourront, s'ils le souhaitent, revenir à un jour de présence sur site selon le nouveau protocole sanitaire en entreprise qui sera publié demain, Thomas.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, François Omeril, président du syndicat des cadres CFE-CGC.
Alors que plusieurs personnalités de l'opposition craignent que le retard pris par la France dans la vaccination anti-Covid ne découle d'une pénurie de vaccins, le gouvernement multiplie les apparitions et assure qu'il va simplifier et accélérer sa campagne de vaccination.
Nous reviendrons également dans le journal sur le scandale révélé hier par la juriste Camille Kouchner, laquelle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau lorsqu'il avait 14 ans. L'actualité à l'étranger, nous irons tout d'abord aux États-Unis où les bureaux de vote ouvrent aujourd'hui en Géorgie pour une double élection sénatoriale décisive. Et puis nous tâcherons de comprendre les dessous de l'accord de réconciliation aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite d'un côté et le Qatar de l'autre. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
L'expansion de l'État a-t-elle standardisé le monde? A-t-on perdu ce précieux savoir-faire, savoir-pratique qui nous aidait jusqu'ici à réfléchir à ce qui nous entoure? Avec nous, dans la deuxième partie de l'émission, une figure majeure de l'anthropologie, vraiment un grand nom, c'est James C. Scott qui sera l'invité de la grande table des idées à l'occasion de la parution en France de L'œil de l'État, moderniser, uniformiser, détruire, c'est à la découverte.
Après avoir espéré, de longs mois durant, qu'un super vaccin puisse enfin nous débarrasser du Covid-19, mieux ne vaudrait-il pas encore en ce début d'année s'armer d'abord et surtout de patience, ou quand le meilleur à attendre de 2021 est peut-être qu'elle nous assure une transition rapide vers 2022. Quoi qu'il en soit, après avoir vacciné plus d'un million de personnes et alors que la campagne d'immunisation bat son plein avec l'introduction ce début de semaine du vaccin AstraZeneca, le Premier ministre britannique a donc annoncé hier soir un reconfinement total de l'Angleterre et choisi d'imposer au moins jusqu'au 15 février des restrictions aussi sévères, voire plus brutales que lors de la première vague du printemps dernier. Obligation de rester chez soi, fermeture des écoles et des terrains de sport, nos hôpitaux n'ont jamais été autant sous pression, a notamment justifié Boris Johnson. Alors pourquoi le 15 février ? Le gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux d'immuniser d'ici là la plupart des 13 millions de personnes vulnérables. Quant à la question de savoir pourquoi il aura fallu autant de temps au Premier ministre pour arriver à cette conclusion inévitable, a notamment commenté le maire de Londres, Sadiq Khan, eh bien, la réponse pourrait être à trouver du côté de son impact économique. Ce nouveau confinement devrait coûter au Royaume quelques 27 milliards de livres. À moins que cela ne relève d'une erreur d'anticipation, sinon d'appréciation, c'est en tous les cas l'analyse de l'historien et professeur à l'université Queen Mary de Londres, Daniel Lee, interrogé par Marie-Pierre Véro.
C'est quelqu'un qui réagit un peu trop tard, si je peux dire. Boris Johnson, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est sûr, mais il les prend quand c'est déjà trop tard, quand le moment s'est déjà passé. Il aurait dû prendre cette décision la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et c'était le même cas en été, c'était le même en automne. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allés à l'école aujourd'hui. Et là, ils ont fait le lundi et là, c'est fini pour eux. Ils ont passé un jour et c'est tout, quoi. Donc, pour ceux qui ont des petits-enfants, ils n'ont pas le temps vraiment d'organiser quelque chose. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la semaine dernière. Il aurait pu aller plus loin, si je puis dire.
Boris Johnson, en fait, n'est pas assez dur pour combattre la pandémie?
Ah non, si la situation ne change pas, parce que, je ne sais pas, est-ce que les gens ils vont vraiment faire le lockdown, le nouveau lockdown, dans les semaines qui viennent? Ou est-ce qu'ils vont dire « Ah non, j'en ai marre », etc. Parce qu'on entend ça beaucoup. Donc peut-être dans 2-3 semaines, il va falloir prendre des décisions plus strictes que maintenant.
Voilà, Daniel Lee, donc professeur à l'université de Londres, interrogé par Marie-Pierre Véro. Je précise qu'il revient désormais au Parlement britannique de débattre de ces nouvelles mesures, de sorte que ce nouveau confinement devrait entrer officiellement en vigueur mercredi à minuit, même si Boris Johnson a appelé la population à suivre les règles immédiatement. Et tandis que la nouvelle variante du virus se propage dans tout le Royaume-Uni, la première ministre écossaise avait elle aussi décidé un peu plus tôt hier soir de prendre des mesures similaires aux restrictions mises en place en mars 2020. Concrètement, les habitants auront pour consigne de rester chez eux et les écoles resteront fermées pendant toute la durée du confinement, parti pour durer 4 semaines. Enfin, rappelons que les deux autres provinces du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles avaient quant à elles déjà instauré juste après Noël leur troisième confinement. En Allemagne, où de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer le rythme de vaccination, pourtant beaucoup plus rapide que nombre de ses voisins européens, les autorités s'apprêtent à prolonger les restrictions jusqu'au 31 janvier. La décision devrait être prise aujourd'hui entre la chancelière Angela Merkel et les 16 États-régions. Le cas échéant, les commerces, les écoles et les lieux culturels devraient donc garder porte close et les employés seront incités à privilégier coûte que coûte le télétravail. En France, cette fois-ci où les hospitalisations ont continué d'augmenter, hier, le gouvernement désireux d'éteindre les critiques toujours plus nombreuses sur le rythme de la vaccination a promis ce matin par la voix de son ministre de la Santé d'amplifier, d'accélérer et de simplifier cette campagne. 300 centres de vaccination seront opérationnels dès la semaine prochaine. Olivier Véran a par ailleurs annoncé qu'il allait élargir cette campagne en l'ouvrant dans un premier temps aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans. Puis, aux enseignants, ce sera dès le mois de mars, une bonne nouvelle selon Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES sur le vaccin pour les professeurs, jointe au téléphone par Hakim Kasmi.
En termes de protection des personnels, c'est plutôt une bonne chose. On sait que les personnels, les professeurs sont particulièrement exposés, qu'ils sont exposés à du public. Et donc, pouvoir vacciner les enseignants rapidement, ça serait quelque chose de positif parce que ça permettrait aussi, dans une optique de prévention, de se donner les moyens de garder les établissements ouverts le plus possible.
Concrètement, selon vous, quels sont les enseignants qu'il faut privilégier en premier ?
C'est certain qu'il va falloir très rapidement clarifier le calendrier global, donc on voit bien qu'il bouge un peu tous les jours en fonction des annonces du ministre de la Santé, mais aussi le calendrier qui concerne les enseignants. Il y a des choses à discuter, peut-être voir ce qu'il en est des enseignants vulnérables, peut-être voir aussi ce qu'il en est des enseignants peut-être dans le premier degré qui sont face à des élèves non masqués. Bref, il y a plusieurs pistes à discuter. Et ça, nous, on est tout à fait prêts à échanger là-dessus parce qu'il y a quand même une urgence. C'est comment est-ce qu'on protège et comment est-ce qu'on fait de la prévention pour des personnels qui sont exposés.
Voilà, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES, elle répondait à Hakim Kasmi. Nous ne pouvons pas assouplir les restrictions à l'heure actuelle, encore prévenu ce matin Olivier Véran. Alors on savait déjà que les établissements culturels et les salles de sport ne rouvriront pas jeudi, mais il semble quasiment acquis que la fermeture des restaurants sera elle aussi prolongée au-delà du 20 janvier. Les différentes organisations syndicales du secteur sont d'ailleurs convoquées à une réunion cet après-midi à Bercy. À compter du 7 janvier, le protocole sanitaire applicable en entreprise sera modifié pour permettre à ceux qui en expriment le besoin de revenir une journée par semaine en entreprise, selon les termes de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, laquelle a dit ce matin entendre les salariés qui n'en peuvent plus et se trouvent dans une forme de détresse psychologique. Alors cet assouplissement devait initialement intervenir dès le 2 janvier. L'échéance a finalement été légèrement repoussée. Concrètement, cela signifie qu'à compter de ce vendredi, donc le 100% télétravail pourra se transformer en 80%. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, François Omeril, président du syndicat des cadres CFE-CGC. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Les salariés donc qui sont à 100% en télétravail et qu'ils souhaitent pourront revenir un jour de présence sur site selon le nouveau protocole en entreprise qui sera publié demain. Est-ce que vous saluez cette évolution ?
C'est une bonne chose, c'est une bonne chose de desserrer les taux. Il faut avoir la claire conscience que le 100% télétravail pose tout un tas de problèmes qu'on est en train de mesurer et dont on n'a pas encore totalement l'impact. On a fait un certain nombre d'enquêtes qualitatives à l'automne qui nous montrent à l'évidence que la souffrance psychologique, la difficulté à exercer ses missions a pris place au sein même du télétravail, notamment dans la deuxième phases de confinement. Dans la première phase, je dirais qu'il y a eu beaucoup de découvertes. Finalement, les gens se sont adaptés assez rapidement dans des circonstances qu'ils savaient être très exceptionnelles. Mais dans la deuxième période, celle qui a débuté au début du mois de septembre, ben, tout d'un coup sont apparus quand même tout un tas de problématiques qu'il va être difficile de juguler. Et donc revenir à des relations sociales, certes de faible ampleur, mais des relations sociales au sein même d'un collectif du travail, oui, moi je salue, c'est une bonne chose. Je voudrais rajouter, si vous voulez, que je considère que la ministre est un peu trop frileuse, qu'elle ne donne pas assez, elle ne délègue pas assez la confiance aux acteurs de terrain, que dans les entreprises, que sont les représentants du personnel, mais aussi les chefs d'entreprise. Je crois qu'on a toute capacité désormais, au sein même des entreprises, ben, finalement, à mettre en œuvre, à mettre en place. Je crois que chacun est conscient de la gravité de l'épidémie, de toutes les mesures de prévention qu'il faut mettre en place, et que on a suffisamment de responsabilités pour pouvoir assumer et décliner ce qui est de l'ordre de l'urgence sanitaire.
Les entreprises pourront, le moment venu, jouer un rôle dans la stratégie de vaccination contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré également ce matin Elisabeth Borne. C'est encore assez énigmatique. Est-ce que vous imaginez d'ores et déjà qu'il conviendra de poser des garde-fous ?
Bah, je reprends à mon compte votre terme. C'est assez énigmatique comme formulation. Vous savez, dans les entreprises, on fait déjà la vaccination antigrippale. C'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien parce que effectivement les salariés sont disponibles à ce moment-là et on peut faire via les services de santé qui soient intégrés aux entreprises quand elles ont la taille suffisante ou qu'ils soient déportés à l'extérieur. Bon, ben on a une disponibilité assez grande des personnes. Donc indépendamment de toutes les considérations sur la question de la vaccination sur lesquelles moi personnellement j'ai pas d'avis, sur le plan pratique, à l'évidence, oui, l'entreprise est un lieu dans lequel on peut trouver un certain nombre de facilités et d'encadrement pour pouvoir faire une vaccination de grande ampleur.
S'agissant de la situation économique et sociale en cette rentrée, donc plusieurs études pointent du doigt le risque de voir les faillites exploser en 2021. Le gouvernement va prolonger, on le sait, le plan jeune, notamment la prime à l'embauche de 4000 euros, les aides à l'apprentissage. Il poursuit également ses mesures d'urgence pour les activités les plus impactées par la crise. Est-ce que la réponse est à la hauteur, selon vous, de la situation ?
Bon, c'est très difficile de prendre position sur le sujet. Je crois qu'il faut réaffirmer le fait que les décisions qui ont été prises en France, notamment de l'usage du chômage partiel massif, étaient des bonnes décisions. La décision de mettre en place un dispositif du type du chômage partiel via la négociation en entreprise dans les branches, qu'on appelle, c'est son nom de code, l'APLD, est aussi un bon dispositif. Ça permet aux entreprises de se maintenir à flot pendant la durée qui est pour certaines entreprises, vous l'avez cité tout à l'heure, les hôtels, cafés, restaurants, les restaurants en particulier, qui sont interdits de fonctionner, c'est le secteur de la culture. Donc pour ces entreprises-là, s'il n'y a pas des dispositifs organisés de soutien financier à leur non-activité, de toute façon, elles disparaîtraient. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez mesurable, c'est qu'il y a eu en 2020 moins de faillite qu'en 2019. On a donc là la preuve que ces dispositifs-là, ils ont été efficaces. Mais j'ai envie de dire que 2021, c'est vraiment l'année de tous les dangers. Parce que, quelle que soit l'échéance, il faudra bien que le mur se dresse devant les entreprises. Ce mur, c'est un mur financier. Il y aura des prêts à rembourser. Il y a un moment où les dispositifs d'aide au chômage partiel vont petit à petit s'amenuiser. Et donc, s'il n'y a pas en face une activité qui a repris son plein régime, eh bien là, par contre, on va se retrouver devant une avalanche de faillites et ce sera un très très gros problème.
Le contexte économique, social ne saurait être effectivement plus critique. Une dernière question, Monsieur Omril. Quand la Haute Autorité de la Santé précise hier que 30% des décès du Covid-19 en France l'ont été dans les EHPAD, soit un tiers des morts pour 1% des Français, et que par ailleurs 9 morts sur 10 liés au Covid ont plus de 65 ans, autrement dit que pour la très grande majorité d'entre eux, probablement il s'agit de retraités, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce qu'au fond, cette mise sous cloche de l'ensemble de l'activité économique était justifiée au regard du profil des personnes véritablement à risque ?
Ah, vous me posez une question bien sûr trop difficile. Moi, je ne veux pas répondre à cette question-là parce que, en cette matière, je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la décision politique et ensuite de cette déclinaison. Le pouvoir politique, il a pris ses responsabilités. Il a décrété le confinement. Moi, je n'ai jamais ni commenté ni critiqué cette décision parce qu'il me semble que justement, elle est du ressort de la décision politique. Ce que parfois j'ai critiqué, c'est le manque de confiance du gouvernement vis-à-vis des acteurs sociaux sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre, s'adapter, trouver les moyens pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences ni économiques ni sociales de ces décisions-là. Mais cette décision-là, elle est vraiment du ressort du politique.
On a bien compris.
J'estime que ce n'est pas de mon ressort de la commenter.
Merci François Omeril, président, je le rappelle, du syndicat des cadres CFE-CGC, d'avoir répondu à notre invitation.
12h45 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
J'ai choisi d'écrire car je ne pouvais plus me taire. Ce livre est né de cette nécessité, se défaire du silence. Bien sûr, j'ai pensé que mon livre pouvait paraître obscène à cause de la notoriété de ma famille. Puis je me suis dit, c'est justement pour cela qu'il faut le faire. Voilà comment Camille Kouchner, juriste, fille de l'ex-ministre Bernard Kouchner, justifie dans un entretien à l'Obs le sujet de son livre à paraître jeudi, dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir violé son frère jumeau lorsqu'il avait 14 ans. Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé. De son côté, réagit Bernard Kouchner. Quant à Olivier Duhamel, constitutionnaliste, politiste, chroniqueur sur plusieurs médias, il a aussitôt annoncé hier soir mettre fin à l'ensemble de ses fonctions. Nous allons y revenir. Mais pour commencer, nous avons choisi d'essayer de comprendre la démarche donc de Camille Kouchner, laquelle a choisi de dénoncer l'inceste, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'elle révèle là, au fond, un drame étouffé depuis des décennies par le carcan familial et donc une forme d'omerta. Or, ce scandale ne conduira à aucune procédure judiciaire, puisque les faits sont aujourd'hui prescrits. En revanche, il donnera lieu, à coup sûr, a priori, à une forme de procès médiatique. Sur ce point, je vous propose d'écouter Audrey d'Arzonville, professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre, jointe au téléphone par Florence Turm.
Pour ces faits-là, la prescription étant acquise, il est clair qu'il ne pourra pas y avoir de procédure judiciaire. En matière de viol sur mineur, la prescription depuis la loi de 2018 est de 30 ans à partir de la majorité. Donc si les faits dénoncés dépassent ce délai, ils ne pourront pas effectivement faire l'objet d'une décision judiciaire. Alors ça pose la question de la présomption d'innocence, puisque là, en l'occurrence, Olivier Duhamel n'aura pas les moyens judiciaires d'apporter son innocence, puisque de toute manière, les faits sont prescrits, il n'y aura pas d'audience judiciaire. On est à ce moment-là dans un débat qui sera un débat médiatique, éventuellement parole contre parole, mais très clairement, il n'y aura pas la possibilité d'apporter un démenti.
La sanction, aujourd'hui, elle n'est pas pénale, elle est sociétale également, concernant Olivier Duhamel.
La sanction, elle est complètement sociétale. Il a démissionné, sauf erreur de ma part, de toutes ses fonctions. Elle est sociétale puisqu'évidemment, il est mis devant une révélation à laquelle il ne peut pas apporter de réponse judiciaire. C'est sûr que c'est une révélation publique et la mise en pâture du nom d'une personne qui ne donnera pas lieu à une audience pénale.
Comment le comprenez-vous dans la mesure où Camille Kouchner est quand même quelqu'un de très informé sur le droit? C'est quelque chose qu'elle savait forcément en publiant et en ne publiant qu'aujourd'hui les choses.
Oui, alors je pense que la démarche, quand on révèle une infraction, n'est pas toujours une démarche qui a pour finalité un procès pénal. Le procès pénal n'est pas toujours d'ailleurs la meilleure finalité. Peut-être qu'on peut imaginer qu'il s'agit tout simplement aussi de révéler un fait de société qui est un fait très important, qui est l'existence de l'inceste, et elle le dit d'ailleurs dans tous les milieux sociaux, et peut-être un moyen d'éclairer les victimes sur la réalité de ce qu'est l'inceste, et éventuellement peut-être d'inciter d'autres victimes à dénoncer les faits. Je pense que la démarche peut tout à fait être une démarche sociétale avant d'être une démarche judiciaire.
Audrey d'Arzonville, professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre, elle répondait à Florence Turm. Alors pour l'heure, le principal incriminé, Olivier Duhamel, s'est refusé à tout commentaire. En revanche, je le disais, il a démissionné hier soir de toutes ses fonctions et en particulier celle de président de la Fondation nationale des sciences politiques. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Olivier Duhamel était un homme doté, disons, d'une surface sociale comme la capitale sait si bien en faire émerger.
Oui, Olivier Duhamel est d'abord l'une des grandes figures du monde intellectuel français et parisien. Il s'est imposé dans les années 80 comme un spécialiste du droit et de la Constitution dans la filiation de Georges Védel et Maurice Duverger. Aujourd'hui encore, sa thèse sur la gauche et la Ve République est une référence. Il a compté et il compte encore pour des générations d'étudiants, explique un enseignant qu'il connaît depuis longtemps. À Sciences Po, son cours était l'un des plus renommés, l'un des plus suivis, et beaucoup parlent de lui encore aujourd'hui avec des yeux humides et des trémolos dans la voix. Il est donc considéré comme une référence, ce qui lui a valu de devenir en 2016 président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, l'organisme de tutelle qui finance Sciences Po, à la suite de Jean-Claude Casanova. Olivier Duhamel a annoncé hier après-midi qu'il démissionnait de cette fonction à la tête de la FNSP. Mais à Sciences Po, les révélations de ces dernières heures résonnent comme un coup de tonnerre. Le directeur de Sciences Po Paris et administrateur de la Fondation, Frédéric Millon, a publié un communiqué ce matin faisant état de sa stupeur et rappelant l'engagement de Sciences Po dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Olivier Duhamel, c'est aussi un familier des cercles du pouvoir. Il est d'abord le fils de son père, Jacques Duhamel, deux fois ministre sous Georges Pompidou. Lui-même, Olivier, a été député européen sous les couleurs du Parti Socialiste de 1997 à 2004. Il connaît donc bien et depuis longtemps les réseaux au sein desquels gravitent les décideurs. Il était d'ailleurs jusqu'à hier président de l'un des clubs d'influence parisiens les plus importants, le club Le Siècle. Parmi les membres et anciens membres de ce club, on trouve de grands noms du monde politique et économique français. Jacques Attali, Pascal Lamy, Thierry Breton, Claude Bébéard, Martine Aubry, François Bayrou, Michel Barnier. La liste est longue. Et puis un autre signe qu'Olivier Duhamel était un homme influent et important. Il faisait partie des invités à la rotonde le soir de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 à la présidence de la République. Enfin, il est aussi une personnalité médiatique, chroniqueur à France Culture jusqu'en 2010. Il continuait à commenter l'actualité politique sur Europe 1 et sur la chaîne LCI. LCI qui a fait savoir il y a quelques heures à l'agence France Presse que le politologue n'interviendra plus sur son antenne. L'intéressé lui avait fait savoir un peu plus tôt sur Twitter qu'il mettait un terme à l'ensemble de ses fonctions, vous l'avez dit.
Merci Stéphane Robert. L'Iran a lancé hier soir sa production d'uranium enrichi à 20%, comprenez bien, au-delà du seuil fixé par l'accord international de 2015, mais plus encore un nouveau qui permettrait d'atteindre donc dans les 6 mois le degré d'enrichissement nécessaire pour produire l'arme atomique. Or, au moment où le rideau s'apprête à tomber sur la présidence Donald Trump, eh bien, l'administration sortante américaine semble faire feu de tout bois pour isoler davantage la République islamique. C'est ainsi par exemple que les États-Unis n'auront eu de cesse ces derniers mois d'intensifier la pression sur tous leurs partenaires du Golfe afin de favoriser leur réconciliation avec le Qatar, soupçonné d'être lié justement à l'Iran. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Un accord officiel est donc attendu aujourd'hui à l'occasion du sommet annuel des pays du Golfe. Accord qui entend promouvoir, Christian, une réconciliation soudaine entre d'un côté l'Arabie Saoudite et 3 de ses pays alliés, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Égypte, et puis de l'autre, Doha.
Oui, après 3 ans et demi de crise, l'Arabie Saoudite a décidé d'enterrer la hache de guerre avec son voisin du Qatar. En signe de bonne volonté, Riyad rouvre ses frontières terrestres et aériennes avec l'Émirat. Les autres pays du blocus, à savoir les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, pourraient suivre dans la foulée. Chaque parti s'engage à arrêter les campagnes médiatiques hostiles. Le Qatar doit retirer sa plainte devant l'Organisation Mondiale du Travail. Et puis, il y aura sans doute des arrangements secrets en coulisses. Alors, tous les nuages ne vont pas se dissiper d'un seul coup, notamment entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, les deux frères ennemis du Golfe. Les sujets de discorde sont toujours là, notamment l'alliance entre Doha et la Turquie d'Erdogan, mais également le soutien du Qatar aux frères musulmans. Mais pour l'Arabie Saoudite, il fallait dénouer cette crise stérile qui était dans l'impasse, car un autre dossier ô combien plus urgent exige de serrer les rangs de la famille du Golfe. Les menaces supposées ou réelles de l'Iran sont dans toutes les têtes. Les gardiens de la révolution viennent d'arraisonner un pétrolier sud-coréen dans les eaux du Golfe Persique, mais surtout Téhéran, comme vous l'avez dit, a relancé avec fracas son programme nucléaire. Forcément, les monarchies du Golfe sont inquiètes, d'autant plus qu'un nouveau président américain arrive à la Maison-Blanche dans 15 jours, et les émirs redoutent que Joe Biden soit plus conciliant avec la République islamique que ne l'était Donald Trump.
Merci Christian Chéneau. Quand l'Amérique retient son souffle à l'heure où les habitants de l'État de Géorgie se rendent aux urnes aujourd'hui pour une double élection sénatoriale cruciale, tant son impact sera décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau président Joe Biden. En clair, si les deux candidats démocrates battent les sénateurs républicains sortants, cela signifie que le Sénat passera sous le contrôle du parti de l'âne, ce qui, rappelons-le, est déjà le cas s'agissant de la Chambre des représentants, et ce faisant, Joe Biden aurait alors les mains libres pour appliquer son programme dès son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier grâce à un congrès entièrement acquis à sa cause. Sauf que le scrutin s'annonce serré, sans compter que la croisade de Donald Trump donnera certainement à cette journée une tonalité particulière. Les résultats définitifs d'ailleurs pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours. Alors en théorie, les deux sénateurs républicains partent favoris dans cet état traditionnellement conservateur, même si la Géorgie a surpris en soutenant lors de l'élection présidentielle un candidat démocrate pour la première fois.
première fois en près de 3 décennies, ce qui renforce donc les espoirs des 2 candidats du camp Biden, Raphaël Warnock et John Ossoff, même si le défi reste majeur. C'est une correspondance signée Grégory Phillips.
Le révérend Raphaël Warnock est depuis près de 15 ans l'un des pasteurs de l'Ebenezer Baptist Church à Atlanta, l'église de Martin Luther King. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ses discours politiques résonnent parfois comme des sermons. C'est cet Afro-Américain, né il y a 51 ans à Savannah dans une famille de 12 enfants, que les démocrates de Géorgie ont choisi pour affronter la toute récente sénatrice républicaine, Kelly Loeffler, richissime et pro-Trump. L'autre candidat démocrate s'appelle John Ossoff, 33 ans, ex-attaché parlementaire, ancien journaliste d'investigation. Son mentor, c'est John Lewis, le héros de la lutte pour les droits civiques, disparu l'été dernier. Ossoff nous confiait ceci, mi-décembre. Vous avez un jeune juif, fils d'immigrante, qui fait campagne aux côtés d'un homme d'église afro-américain, occupant le pupitre de Martin Luther King. Et tous les deux, nous menons un mouvement pour la santé, les emplois et la justice. Dans cette élection, Ossoff est opposé au sénateur sortant, le républicain David Perdue. Pour cette campagne, chacun des 2 candidats démocrates a levé plus de 100 millions de dollars, ce qui fait déjà de ces élections sénatoriales les plus chères de l'histoire des États-Unis.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert sur la majorité du pays avec des averses et parfois aussi de la neige. En revanche, le soleil fera lui son retour sur le pourtour du golfe du Lion. Quant aux températures, elles afficheront entre 0 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.